Programme, on revient sur les mobilisations à Bordeaux suite à la crise institutionnelle au Sénégal, après que le président sénégalais Macky Sall ait reporté les élections. On entendra également un entretien d'une gynécologue qui explique l'incidence des perturbateurs endocriniens sur notre fertilité. Et on commence avec notre journal dans le plat de résistance. Bonjour Léa.
Bonjour Léa, bonjour à tous.
Ce jeudi 21 février, 200 paysans et paysannes se sont mobilisés devant le siège du géant laitier Lactalis à Laval, suite à l'appel de la Confédération paysanne.
Oui, en cause, les prix de cession du litre de lait fixés par la multinationale en ce début d'année, des prix qui ont diminué par rapport à 2023 et dont les montants sont bien inférieurs à ceux des autres laiteries, comme le précise le Média Reporter. Pour les manifestants et la Confédération paysanne, cette situation démontre l'inefficacité de la loi Egalim. Les revendications des agriculteurs et des agricultrices exigent une revalorisation à hauteur de 500 euros, le millier de litres, contre les 420 euros imposés par Lactalis.
De même, en Gironde, un viticulteur a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux.
Oui, il reproche à deux négociants bordelais d'avoir acheté du vin à un prix abusivement bas. Le tribunal devra se prononcer aujourd'hui en vertu des articles de la loi Egalim et déterminer si les acheteurs agricoles sont dans l'illégalité quant à leur prix de cession. Selon le journal Sud-Ouest, cela constituerait une première en France car cet article censé protéger les agriculteurs des plateformes d'achat n'avait jamais été activé. Selon l'avocat du viticulteur, ce dernier avait adressé une demande de soutien au ministère de l'Économie mais n'a reçu aucune réponse concernant sa plainte.
Et cette semaine, les mobilisations des agriculteurs et des agricultrices reprennent partout en France, juste avant le Salon de l'Agriculture qui se tiendra ce samedi à Paris.
Gabriel Attal a d'ailleurs tenu une conférence de presse mercredi matin, présentant les dernières propositions du gouvernement pour répondre à la colère agricole. Il y était question notamment de l'écriture d'une quatrième loi Egalim et le renforcement des sanctions appliquées aux fraudeurs. Anne Poinçon, pour Mediapart, rappelle, je cite, que les principaux objectifs de ces textes législatifs, qui est d'assurer une juste rémunération des productrices et producteurs et d'encadrer des négociations commerciales avec la grande distribution, n'ont jamais été atteints.
Et mardi dernier, l'ONG Amnesty International a publié une lettre ouverte à Emmanuel Macron.
Effectivement, cette lettre vise à demander, je cite, « l'arrêt des livraisons d'armes et de matériel de guerre à Israël ». Elle intervient après une pression des parlementaires et de l'ONU sur le gouvernement français et surtout après la décision de la Cour internationale de justice qui ordonne à Israël de se conformer aux obligations du respect du droit international concernant les crimes de guerre et la répression des génocides de 1948. Depuis le début de la semaine, le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou a lancé des offensives meurtrières sur la ville de Rafah, devenue l'ultime refuge pour plus d'un million de Palestiniens.
L'équipe du documentariste Pierre Karl relance un appel aux dons pour le financement du prochain long métrage « Who Wants George Ibrahim Abdallah in Jail ?»
Ce film explore l'enquête journalistique démarrée il y a 5 ans qui retrace les circonstances de l'enfermement du militant communiste pro-palestinien George Ibrahim Abdallah. La Clé des Ondes est partenaire de la production du film et cet appel aux dons se clôturera le 29 février. Nous vous encourageons à y participer ou à le faire circuler sur le site cp-production.fr.
Merci beaucoup Léa pour ce journal.
Merci à toi.
Tout de suite, on revient sur les mobilisations qui ont eu lieu à Bordeaux suite à la crise institutionnelle au Sénégal, après que le président Macky Sall ait décrété le report des élections. Un reportage au micro de Gérard Clabé.
Ce qu'il faut faire, c'est saisir les opportunités. C'est aussi une opportunité pour le Sénégal. Ah ouais, si jamais on loupe le projet, on est mort pour encore 200 voire 300 ans. Il faut se réveiller. Les mentalités...
C'est Ousmane Tanodien. Je suis le chargé de la communication de PASTEF Bordeaux, membre de PASTEF du parti de Ousmane Sonko.
Donc on est sur la place de la Victoire, samedi 17 février. La semaine dernière, vous étiez sur la place de la Bourse, il y avait beaucoup de monde. Donc la mobilisation se poursuit. Et durant la semaine, pourtant, des choses ont bougé, à savoir que... Le Conseil constitutionnel a censuré la décision de Macky Sall de ne pas tenir les élections dans le calendrier prévu. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes plutôt optimiste ?
tout à fait. Lorsqu'on est dans une démocratie, c'est le droit qui prévaut sur les sentiments. Heureusement, au Sénégal, le droit est là. Heureusement, on a des juges constitutionnels qui sont les derniers remparts de notre démocratie. Le Conseil constitutionnel a dit le droit. Il y a aussi, on a constaté un sentiment de décrispation. Il y avait plus de 1500 détenus politiques. Aujourd'hui, nos camarades sont en train d'être libérés par le pouvoir en place qui les avait accusés de terroristes, de tout ce que vous savez, tout ce que le monde sait aujourd'hui.
Alors à propos de libération des prisonniers, en effet, vous avez dit les prisonniers politiques commencent à être libérés. Et il y en a un qui est en prison et qui pour vous est peut-être plus important que les autres, c'est Ousmane Sanko, votre leader du parti. Mm-hmm. Alors lui, libérable aussi ?
Nous avons toujours défendu la thèse selon laquelle que Ousmane Sanko a été arrêté pour des motifs politiques. Ce n'était pas pour des motifs de droit. Nous l'avons toujours défendu, nous l'avons toujours porté, nous y avons toujours cru. Et exactement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Vous savez, on a libéré, je vais prendre un exemple, une femme qui s'appelle Amidia, qui a été accusée par le procureur d'alors comme étant une femme qui finançait des activités terroristes. Elle a été chargée. Elle a été chargée lourdement. Hier, elle a été libérée par ce même procureur comme par alchimie. Donc, on peut voir que dans une démocratie, lorsqu'on n'a pas des institutions, lorsqu'on n'a pas des hommes assez à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées, le droit peut être interprété à leur guise, effectivement. Donc, c'est ce que nous continuons de défendre. Ousmane Sonko n'avait pas à être en prison. Il doit être libéré dans les plus brefs délais et que le calendrier électoral puisse suivre son cours, comme effectivement le Conseil constitutionnel a émis une injonction à l'endroit du président de la République en lui disant de façon très claire dans sa décision au considérant vain que la durée du mandat ne pouvait être prorogée au-delà du 2 avril, date butoir de la durée légale de la présidence de Macky Sall.
Et supposons que Ousmane Sanko soit libéré. Est-ce que vous êtes aussi, vous, sur une ligne, la libération ne suffira pas, il faudra aussi remettre en question sa condamnation qui l'empêche d'être candidat?
Vous savez, Ousmane Sonko, en tant qu'homme politique, est quelqu'un doté d'une certaine, d'un bon sens assez élevé. Il nous a toujours dit que je combattais personnellement le fétichisme du leader. Lorsque Ousmane Sonko a été condamné d'une peine d'inéligibilité, il a eu à prendre Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui qui porte le projet de PASTEF. Donc finalement, nous n'avons pas un problème de personne. Nous avons, et in fine, un projet politique que le moins préparé des PASTEFiens, du parti PASTEF, peut effectivement manager de façon très claire, de façon très simple, conformément aux attentes du peuple sénégalais. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Le Conseil constitutionnel ne reconnaît que les 20 candidats arrêtés dans sa liste définitive. Donc finalement, dans ce cas de figure-là, nous n'envisageons pas une élection où on mettrait d'autres candidats, même si effectivement nous croyons que Ousmane Sonko a été condamné d'une peine d'inéligibilité, quelque chose qui a été tout à fait politique. Donc finalement, nous pensons qu'aujourd'hui, notre candidat, il reste Bassirou Diomaye Faye en l'espèce.
Là, la suite, ça va être quoi pour vous?
On va continuer la mobilisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Le peuple sénégalais est très résilient, mais le peuple sénégalais reste combatif. Ils sont assez mobilisés parce qu'ils ne se laissent pas embobiner par certaines ruses politiques. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté la mobilisation, parce que nous savons que la démocratie elle n'est jamais acquise. Elle doit être maintenue à travers la mobilisation des esprits démocratiques et avisés.
Le Cherceau, je suis béglé d'adoption, mais voilà, sénégalais de nationalité, et toujours sénégalais d'ailleurs, et engagé sur les luttes à la fois syndicales, politiques de mon pays. Bon, je ne suis pas membre de n'importe de parti politique, quoi. Je suis un citoyen engagé.
Inquiet, optimiste avec les dernières évolutions,
Oh non, en fait, j'ai été très en colère par le geste de Macky Sall et en même temps très optimiste. Et pourquoi très optimiste? Parce que quand il a voté son décret pour annuler 10 jours avant les élections, annuler la campagne et les élections, le peuple a eu raison de se révolter. Et les mouvements de jeunes, les partis politiques, les organisations civiles, la société civile se sont effectivement levés d'un seul tenant et ont battu effectivement le macadam, que ce soit à l'intérieur du Sénégal comme à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on attendait du Conseil constitutionnel qu'il livre sa décision. Et vraiment, le Conseil constitutionnel rétorque Macky Sall, abroge son décret et vraiment le rend encore plus bas que terre, quoi. Et aujourd'hui, même si le Conseil constitutionnel n'a pas donné de date fixe, apparemment, bon, je ne suis pas juriste, apparemment ce n'est pas de sa compétence, mais le Conseil constitutionnel dit deux choses. Une, c'est que les élections doivent effectivement se tenir avant le départ de Macky et que Macky ne peut pas aller au-delà du 2 avril. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on compte les 3 semaines de campagne électorale qui sont fixées dans la loi électorale, on a comme terme ou bien le 3 mars ou bien le 10 mars. Donc on peut espérer aujourd'hui, on attend, apparemment les membres de sa coalition ont dit qu'ils vont suivre l'avis du Conseil constitutionnel. Donc on attend effectivement. Alors toute la question est-ce qu'on part avec la même liste ou est-ce qu'on va rebattre les cartes, quoi. Je crois qu'aujourd'hui dans l'avis général, si on veut rebattre les cartes, ça va encore nous ramener plus loin, quoi. Donc si le dialogue, on ne peut pas parler de dialogue pour l'instant, on parle plus de négociation, etc. Mais si négociation a, c'est à la fois la libération des détenus politiques. Il faut savoir que des jeunes ont été libérés, mais d'après les informations qu'on a, il y a des jeunes dont on ne trouve pas trace et qui étaient en prison. Il y a des jeunes qui sont sortis avec des séquelles physiques et mentales très très dures. Vous vous rendez compte, vous mettez des jeunes avec des violeurs, des criminels, des jeunes de 15-16 ans, et aussi qu'on libère les deux principaux leaders. C'est-à-dire qu'il y a Sonko, Ousmane Sonko et Diomaye. Alors, ils ont été surpris parce que ce n'est pas une tradition dans les partis politiques africains et même en France souvent d'avoir un deuxième homme ou une deuxième femme. Sauf que, apparemment, Pastef, que je suis un peu de près, ils avaient aussi préparé aussi au niveau de leur directoire. Ils ont aussi des gens aussi valables que Sonko. Et donc, quand ils ont arrêté Sonko, ils ont mis Diomaye en avant et après Diomaye, ils l'ont arrêté. Mais pour des futilités, quoi. Et donc, il faut effectivement qu'ils les libèrent. Je pense que ça fait partie vraiment des négociations. Sortir les détenus politiques. Donc voilà un peu la réalité. Alors donc, aujourd'hui, au Sénégal, il y a une grande manifestation. Et d'après les images que j'ai vues pour une première fois, les forces de défense et de sécurité n'ont pas agi. Et donc, à travers la diaspora aussi, il y a effectivement des manifestations pour tenir le macadam, pour arriver. Mais ce n'est pas la première fois. Diouf, on l'a fait partir. Ouad, on l'a fait partir. Celui-là aussi, il partira, peut-être par la petite porte. Quoi.
Merci Gérard Clavé pour ce reportage. On passe à présent à notre deuxième sujet dans le plat de résistance. Un entretien avec une gynécologue spécialiste des questions environnementales et de la reproduction. Elle nous explique l'incidence des perturbateurs endocriniens sur la fertilité.
Eh bien, je suis docteur Véronique Biedamont, gynécologue spécialisée donc en médecine de la reproduction. Et je travaille depuis plus de 30 ans. Voilà.
Donc spécialisée en médecine de la
reproduction dans le centre de PMA, c'est-à-dire de fertilité, tout ce qui est reproduction en fait.
Et vous travaillez donc notamment sur les perturbateurs endocriniens.
Voilà, en plus j'ai une formation d'endocrino au départ. Et donc on travaille, nous, notre centre de PMA, on s'est spécialisé dans tout ce qui était environnement et reproduction. Alors, donc oui.
Qu'est-ce que vous entendez par environnement ?
Alors, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Et les perturbateurs endocriniens font partie des polluants. C'est une famille des polluants, mais c'est les plus importants. Hein. Il y a des polluants qui sont, on va dire, les ondes électromagnétiques. Il y a des polluants qui sont plus chimiques purs. Et puis, il y a ceux qui perturbent les hormones, qu'on appelle perturbateurs endocriniens. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus impliqués dans la reproduction, puisque l'axe qui va stimuler les ovaires est un axe hormonal, endocrinien, quoi. Donc, les perturbateurs endocriniens sont des polluants de notre environnement qui vont agir sur notre fertilité.
Et donc, par exemple, pour citer quelques sources de ces perturbateurs endocriniens, où est-ce qu'on peut les retrouver ?
Alors, les perturbateurs endocriniens, alors ça, on les trouve pratiquement de partout. Hein, on dit qu'ils sont ubiquitaires, on les retrouve vraiment de partout dans l'environnement. C'est tout ce qui est à base de chimie, de produits plastiques. Il y a différentes molécules, il y en a plein, je ne vais pas toutes vous les citer. Il y a trois voies d'entrée principales, trois sources de contamination. Il y a tout ce qu'on se met sur la peau, donc la cosméto, avec les parabènes qui sont très connus. Il y a tout ce qu'on absorbe par la bouche, hein, en particulier par l'alimentation et donc les pesticides, les conservateurs, les rehausseurs de goût, les colorants, toutes ces choses-là. Et puis il y a tout ce qu'on respire dans l'air, c'est la troisième voie. C'est tout ce qui est les dérivés, les particules volatiles persistantes. C'est tout ce qui est à base de pétrole, de particules fines qui polluent l'air. Quand on parle de pollution à Lyon, on a l'air pollué, c'est ça. Et ce sont des perturbateurs endocriniens. Voilà.
Donc, qu'est-ce que c'est l'état actuel un petit peu des recherches, des connaissances entre ce lien polluant et infertilité ?
Alors, ce lien, il s'est fait progressivement. Il y a eu des études qui ont commencé par l'animal. On s'est aperçu, par exemple, en Californie, lorsqu'il y a eu un pesticide qui a été déversé dans les eaux, que les alligators, les crocodiles mâles, devenaient femelles. Qu'il y avait donc un changement de sexe pour ces animaux-là par les perturbateurs endocriniens. Donc il y a eu des études, et puis qui ne se reproduisaient plus, quoi. Et à partir de ces observations animales, il y a aussi eu la dioxine en Italie. Et à partir de ces observations animales, il y a eu des études qui ont montré que l'exposition humaine à des perturbateurs endocriniens modifiait énormément tout notre axe de reproduction. Alors là, les études ont été d'abord très progressives. On a pris du retard par rapport à certains autres pays sur le lien entre l'environnement et la fertilité. Alors, parce que même les médecins, au départ, étaient un peu... Peut-être pas les leaders, par exemple, l'exposition au bisphénol A, avec l'interdiction du bisphénol A dans les biberons des enfants. Le premier pays qui allait les interdire, c'était le Québec. Les États-Unis, ils ont été beaucoup plus en avance que nous sur ces problèmes-là. Maintenant, en France, c'est très bien établi. Vraiment, le lien, il y a des preuves scientifiques qui sont très importantes. Et je dirais même que ça touche toutes les étapes de la fertilité, c'est-à-dire l'ovaire, l'ovulation chez la femme, l'endométriose serait liée aux perturbateurs endocriniens, les ovaires polykystiques qui sont extrêmement fréquents, par exemple, les fausses couches à répétition, ce qui est quand même non négligeable. Donc ça, c'est l'impact direct des perturbateurs endocriniens sur la fertilité de la femme. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin, parce que cette femme, quand elle est enfant, elle arrive à être enceinte. Si pendant la grossesse, on est exposé à ces perturbateurs endocriniens et qu'on expose le fœtus, sur cet embryon, enfin sur ce fœtus, il va y avoir des perturbations qui vont favoriser à l'âge adulte de cet embryon des maladies gynécologiques qui elles-mêmes entraîneront une infertilité. En particulier l'endométriose. Il y a une piste en tout cas sur l'endométriose et il y a une piste aussi sur les ménopauses précoces, l'insuffisance ovarienne, qui est en nette explosion. Et donc, on pense qu'il y a un effet soit des perturbateurs endocriniens, soit un effet toxique direct de certains produits chimiques, qui ne sont pas tous des perturbateurs endocriniens. Et puis, il y a toujours ce point d'interrogation sur les ondes électromagnétiques. Ça sera pendant quelques années, ça, je pense.
Et au niveau individuel, est-ce qu'on peut établir un diagnostic d'infertilité lié aux perturbateurs endocriniens ?
Alors, justement, nous, dans notre centre, ce qu'on a fait, c'est que individuellement, pour chaque personne, on a mis en place un QR code où il y a une enquête sur l'exposition de nos patients aux perturbateurs endocriniens. Donc on a une série de questions sur tout ce qui est alimentaire, sur tout ce qu'on se met sur la peau, sur tout ce qu'on respire, d'accord ? Et en fonction de ça, il y a un score à la fin. Et ce score, il détermine si on est bien ou pas, si on est exposé ou pas aux perturbateurs endocriniens. Et si tel est le cas, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens négligent certaines choses de l'environnement, bon, le tête de file, bien sûr, c'est le tabac. Hein. Le tabac, il y a 4000 molécules chimiques dans le tabac, dans une cigarette. 4000 molécules qui font un cocktail. Ce ne sont pas tous des perturbateurs endocriniens, mais les trois quarts, oui. Donc, on fait une enquête individuelle. Et après, en fonction, ben, nous, on a des consignes, on leur donne des choses à modifier dans leur environnement. On a même on travaille également avec des personnes pour faire de la rééducation, ce qu'on appelle thérapeutique, c'est-à-dire réapprendre à avoir les bons gestes du quotidien. Des gens qui sont trop exposés, qui ont de l'endométriose, qui mangent mal, qui n'aèrent pas leur maison, on leur donne des conseils pour améliorer leur contexte de fertilité.
Et donc, en termes de chiffres, de personnes qui consultent pour ça, ça représente quoi un petit peu?
Les perturbateurs endocriniens?
Ouais.
Mais en fait, c'est difficile de vous donner un chiffre, parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'on est tous exposés aux perturbateurs endocriniens. Quand vous mangez les produits alimentaires des grandes surfaces sous plastique, avec plein de conservateurs, vous êtes forcément, vous absorbez forcément des perturbateurs endocriniens. Quand vous respirez, alors les choses, il y a des choses qu'on peut modifier, comme ce qu'on mange et ce qu'on se met sur la peau. Il y a des choses qu'on peut difficilement modifier, c'est l'air extérieur qu'on respire, la pollution des villes. Mais il y a la pollution aussi de l'air intérieur, c'est-à-dire tout ce qu'on utilise comme produit d'entretien. Nous, on conseille des écolabels. On conseille aux gens les écolabels, on conseille aux gens, surtout pour les fruits et légumes, de choisir préférentiellement le bio ou alors le moins traité. Et puis, pour l'alimentation, comme je vous l'ai dit, on travaille avec une nutritionniste qui aide les gens à choisir, à mieux s'alimenter. Par exemple, on sait que les fruits de mer, ils sont riches en plomb, en mercure, en métaux lourds, qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc, les gens qui vont vous dire « moi, je mange des huîtres toutes les semaines », on va leur dire « ben non, c'est pas bon ». Il faut éviter aussi tous les plats, toutes les conserves, tout ce qui est sous plastique. Surtout pas réchauffer les produits dans des barquettes en plastique au micro-ondes.
Donc tout ce qui provient un petit peu de l'industrie, enfin finalement tout ce qu'on a un petit peu autour de nous, on se rend compte qu'énormément de produits du quotidien contiennent ces perturbateurs endocriniens. Est-ce que les gens sont au courant de ça? Est-ce que les industriels reconnaissent la responsabilité qu'ils
ont? C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que les gens de plus en plus deviennent sensibles. De plus en plus, deviennent sensibles à cette question. C'est logique de manger un produit sain sur lequel on n'a rien rajouté dessus. C'est mieux pour la santé que de rajouter des conservateurs, des colorants. Manger des Smarties, c'est beau, mais c'est pas sain pour la santé, quoi. Alors, outre ça, il y a aussi la qualité de l'alimentation. Je ne vais pas rentrer dans l'alimentaire, mais c'est très important pour nous de manger des produits sains, parce qu'ils sont beaucoup plus riches aussi en minéraux, ils sont plus riches en vitamines, ils sont plus riches. Et ça a été prouvé. Hein. On ne peut pas inciter les gens à aller forcément tout le temps dans les magasins bio. On leur dit qu'on les conseille de manger des produits sains, de bien laver les fruits et les légumes, par exemple. Et pour les produits laitiers, les produits animaux, pareil. Hein,
Donc pour en revenir un petit peu au fait d'établir un cas individuel, vous me dites que c'est difficile de quantifier un petit peu la responsabilité des perturbateurs endocriniens dans l'infertilité. En revanche, on sait que, par exemple, ils peuvent être cause de malformation du fœtus. Ça, c'est des choses qui ont été scientifiquement établies.
Il y a des petits poids de naissance, déjà, et puis, ou au contraire, des macrosomies, ce qu'on appelle des bébés trop gros, mais c'est plutôt les petits poids de naissance. Et puis, il y a des malformations de tout l'appareil urogénital. C'est-à-dire, chez le garçon, ça leur fait des micropénis. Des testicules qui descendent pas, et puis on pense que chez les filles ça favoriserait, comme je disais, à l'âge adulte l'endométriose, peut-être que ça joue sur la réserve ovarienne, parce qu'on a de plus en plus de ménopause précoce, hein.
Et donc peut-être d'établir ce lien aussi au niveau individuel, ça permettrait d'imputer la responsabilité à des industriels ou alors à
des nous, pollueurs. Nous, par exemple, ce qu'on sait, c'est que maintenant, dans nos colloques, dans nos conférences, dans nos congrès de médecine de la reproduction, il y a des sessions entières sur la fertilité et l'environnement. Ça, il y a des sessions entières, il y a des preuves formelles qui ont été établies. Vous avez vu la difficulté pour interdire le bisphénol A, alors qu'on savait depuis déjà quelques années qu'il ne fallait surtout pas en mettre dans les biberons, etc. Et les gens qui continuaient à acheter leurs biberons avec du bisphénol A, et le pire, c'était quand ils les réchauffaient au micro-ondes. Il y a eu toute une génération d'enfants, enfin de personnes qui ont été exposées à ça. Et en France, on a mis un certain temps avant de l'interdire. Ben, c'est pareil, il faudrait tout revoir. Ça, c'est pratiquement pas possible sur le plan économique.
C'est que, par exemple, faire reconnaître la responsabilité du bisphénol, c'était compliqué.
Et ben, c'était, il fallait tout. On en trouve dans les boîtes de conserve du bisphénol A. C'est un plastique qu'on retrouve dans plein de choses. Mm-hmm. Maintenant, c'est les sphalates qui sont le plus impliqués. Et ces perturbateurs endocriniens, comme j'ai oublié de vous dire un truc, ça agit donc sur l'appareil reproducteur de la femme, mais ça agit aussi sur tout l'axe thyroïdien, sur la thyroïde. Il y a aussi des perturbateurs endocriniens qui sont mauvais pour la thyroïde, et on sait que lorsqu'on a une hypothyroïdie pendant la grossesse en particulier, il y a des troubles du neurodéveloppement de l'embryon. Et ça, ça peut être un peu embêtant. Alors, justement, comme on arrive à individuellement avoir à peu près l'exposition, en fonction de chaque profil, si les gens le veulent bien, on leur propose d'améliorer leurs conditions de vie.
Ça, c'est... Ouais, donc on peut agir au niveau des comportements individuels, voilà. Mais pas l'environnement qui nous entoure.
De façon... l'environnement, la pollution, quand il y a des... Après, les gens, ils sont libres de faire leur choix, d'aller faire leurs courses à tel ou tel endroit, de manger telle ou telle chose. Mais quand ils ne savent pas, ils ne savent pas. Après, que nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans cette période de préconception, il y a une sensibilité particulière où on n'a pas envie d'avoir un enfant qui peut avoir des problèmes. Donc, il y a une sensibilité qui fait que c'est le moment où les gens sont accessibles à changer leur comportement. Et en plus, il faut savoir, nous, on parle des 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours de la fécondation au bébé de 3 ans, à peu près, les 1000 premiers jours de vie, c'est là où la vulnérabilité est la plus importante à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et quand on explique ça aux gens, sans leur faire peur, c'est toute la difficulté, et bien là, il y a une volonté d'améliorer leur comportement.
Donc vous, ça fait 25 ans que vous êtes dans le secteur de la médecine.
J'arrive plus à compter. J'ai commencé... Je suis une des plus anciennes de Lyon, hein, maintenant. J'ai commencé en 1996, même avant, parce que j'étais à l'hôpital. Je me suis installée en 96, donc j'ai commencé en 91, je crois. Donc les premières FIV à Lyon. Hein. Pas la première. Hein. Les premières, c'était en 85, par là, en 86. Donc ça fait très longtemps, et ça fait très longtemps, nous on est la première équipe à s'intéresser au lien entre les perturbateurs endocriniens et la fertilité. On a fait les premiers colloques sur Lyon là-dessus, au parc de la Tête d'Or par exemple, où je sais que tout le parc est traité en bio, la roseraie, tout, etc. On avait fait des sensibilisations déjà sur une alerte, je dirais, sur le lien entre les pesticides par exemple. Et la fertilité. Nous, quand j'ai un patient qui est paysagiste ou agriculteur, tout de suite, on lui demande s'il est dans quel secteur, s'il manipule des produits. Et très souvent, on s'est aperçu que ces gens avaient des problèmes, outre d'autres problèmes médicaux, je dirais, beaucoup plus graves. Outre ça, ils avaient des problèmes au niveau des spermatozoïdes. Il y a une sensibilité aussi très importante chez l'homme. Mmh.
Hein? Je voulais justement revenir à ces inégalités peut-être en matière de fertilité. Comment les hommes et femmes sont touchés respectivement par l'infertilité ou les troubles reproductifs ?
Alors, ils sont touchés, je dirais, c'est plus difficile. Chez l'homme, c'est facile de l'évaluer parce qu'on a le spermogramme. Il y a un seul examen, c'est facile. Comment évaluer leur exposition ? Ben, nous, on a ce fameux questionnaire qui fait qu'on peut se rendre compte s'il y a une exposition particulière ou pas. Les gens qui habitent près d'un incinérateur, par exemple, on sait qu'ils sont exposés. À Rieux, il y a un incinérateur. Ouais. Par exemple, pour les hommes, aussi, l'autre chose, c'est pas des perturbateurs endocriniens, j'avais aussi une interview là-dessus, c'était le portable dans la poche. L'exposition aux ondes électromagnétiques, c'est moins prouvé, mais c'est en cours d'étude. D'accord. Les perturbateurs endocriniens, la preuve scientifique du lien, elle est reconnue. Dans nos congrès, il y a, je vous dis, des sessions entières sur ce sujet.
Donc elle est reconnue scientifiquement, mais on n'arrive pas encore quand même à l'évaluer au niveau individuel.
Au niveau individuel, nous, on fait donc notre questionnaire. Mm-hmm. Il y a des laboratoires qui sont en train de mettre en place des kits pour faire des mesures sur certains perturbateurs endocriniens. Donc on a à notre disposition, lorsqu'on a un profil particulier, de rechercher, de confirmer, je dirais, l'exposition de ces perturbateurs par une prise de sang.
Et est-ce que ça peut avoir une valeur juridique, par exemple, comme prouver une malformation à cause du glyphosate?
Par exemple, il y a eu le problème de la thalidomide, je crois, où les bébés naissaient sans bras, là. Le fameux, ça a été très difficile de le prouver. Il y a eu des tabous énormes. Donc, alors après, l'infertilité, c'est pas une maladie au sens maladie. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle c'est une maladie silencieuse. C'est-à-dire, c'est une exposition, même, on dit nous que c'est une maladie silencieuse parce qu'on n'a pas de marque physique. Mais après, est-ce que c'est 100% le perturbateur endocrinien? C'est ça qu'on a du mal à évaluer. Mais on sait qu'il y a un lien, de toute façon. De toute façon, il y a un lien.
Et c'est aussi un enjeu de santé publique.
C'est un enjeu de santé publique. Parce que notre génération, enfin votre génération, elle est moins fertile que celle d'avant, hein. Et qu'on sait que la fertilité, elle baisse comme ça. Et qu'il n'y a pas de raison, en dehors de l'environnement.
Donc là, dans votre petite brochure, il est établi que l'infertilité masculine est aussi fréquente que l'infertilité féminine. Moi, j'avais lu que la qualité du sperme avait diminué de 50% sur les 40 dernières années. Est-ce qu'il existe des traitements contre l'infertilité masculine?
Alors, l'infertilité masculine, il y a vraiment des preuves, comme c'était même inquiétant, mais on pense que ça ne va pas se passer comme ça. C'est une ligne droite de chute des spermatozoïdes depuis plusieurs années. Moi, quand j'ai démarré mes études, on disait que le sperme était normal, enfin, la norme, c'était 40 millions. Après, on est passé à 20 millions, et maintenant, on est descendu à 15, et là, ils veulent descendre à 12 et quelques. Enfin, pour vous dire que vraiment, c'est une chute qui est quand même significative. On sait, par exemple, dans les pays nordiques, il y a un pays qui est très exposé aux pesticides, qui a une agriculture intensive, je crois que c'est le Danemark. C'est là où il y a les spermes les plus mauvais. Alors que là, à l'inverse, la Finlande, qui est un pays où c'est une agriculture plus... et c'est les plus fertiles d'Europe.
Donc un lien démontre perturbateur endocrinien.
Voilà. Mais je pense que c'est une évidence. Hein. Mm-hmm. Et alors, ce qu'il faut dire peut-être, c'est que les perturbateurs endocriniens, ils ont un effet œstrogénique. C'est-à-dire, c'est une hormone féminine. Donc, pour les garçons, pour les petits garçons, on avait eu des colloques très explosifs sur la féminisation de l'espèce humaine, comme le coup des alligators, là, que je vous ai parlé tout à l'heure. Les petits garçons, ils ont une anomalie de leur appareil reproducteur. Des testicules qui ne descendent pas, qui restent coincés, ce qu'on appelle nous les micropénis, et puis les hypospadias, donc c'est l'abouchement de l'urètre qui ne va pas au bout. Enfin bon, des malformations qui peuvent gêner aussi la reproduction. Et là, je crois que les preuves, elles sont bien établies. Parce que c'est un effet œstrogénique. Donc chez le petit garçon, il est vraiment touché directement parce que normalement, il n'y a pas d'œstrogène chez l'homme. Très peu.
Et est-ce qu'on les traite du coup, c'est l'infertilité masculine?
Alors oui, je vais finir avec l'histoire des œstrogènes. Donc chez le petit garçon, c'est embêtant parce que ça entraîne des malformations de l'appareil reproducteur et tout ça. Chez les filles, ça va favoriser tout ce qui est l'endométriose, qui est une greffe de l'endomètre un peu de partout dans le ventre. Mm-hmm. C'est ça. Les œstrogènes, c'est un facteur qui va favoriser ce développement, a priori. Les ovaires polykystiques, comme je disais tout à l'heure, et puis la ménopause précoce. Donc, bien sûr que... Alors, en termes de traitement, alors quand on s'aperçoit que les gens sont exposés, et ceux qui... Hein, on leur donne... Il faut déjà avoir aucune carence. C'est-à-dire qu'on lutte contre les carences, et l'acide folique a un rôle extrêmement important. C'est-à-dire que d'avoir des bonnes doses d'acide folique... Ça permet de diminuer le risque d'exposition, d'exposition, mais le risque de l'impact des perturbateurs endocriniens. Ça diminue l'effet un petit peu. Donc il faut vraiment avoir une supplémentation en acide folique.
Donc ça, c'est des prescriptions qu'on fait aux hommes et aux femmes.
C'est des prescriptions qu'on fait aux hommes et aux femmes. On a tous des produits avec tous les minéraux, l'acide folique qu'il faut, tout ce qu'il faut pour au moins avoir un équilibre. Ça rétablit un petit peu le bon équilibre. Parce qu'il faut savoir aussi que ces perturbateurs endocriniens, ça diminue le fonctionnement des glandes, des hormones, donc des testicules chez l'homme et des ovaires chez la femme. Et que si en plus on a des carences comme les oméga-3, les antioxydants, ça va aggraver les effets des perturbateurs endocriniens. Alors que si on donne tous ces compléments, on va limiter l'effet des perturbateurs endocriniens. L'idéal, ce serait d'agir sur les deux.
Parce que, enfin, moi, j'ai lu quelques données qui disaient que, du coup, il y avait peu d'études en fait qui avaient été menées sur le traitement de l'infertilité masculine et que même en cas d'infertilité masculine dans le couple, c'était la femme qui entreprenait les traitements. C'est le cas.
Oui, enfin, dans le sens où, par exemple, un homme qui a un mauvais sperme. Donc, il y a une indication de fécondation in vitro, c'est la femme qui va avoir la fécondation in vitro. Donc, le traitement de la fertilité, il repose effectivement sur la femme, même si la cause est masculine. Mais on donne à l'homme des compléments pour améliorer le plus possible son sperme.
Et comment on l'explique, ce manque d'études sur la question ?
Parce qu'il n'y a pas de grand-chose. Le sperme, c'est, dans un éjaculat, on dit qu'il y a environ 200 millions, je veux dire, de spermatozoïdes. Bon, quand ils sont très diminués, on arrive à agir un petit peu sur la qualité, mais on ne va pas tellement modifier les choses. Chez l'homme, c'est... Et en plus, le sperme se renouvelle tous les 2 mois, donc c'est quelque chose, vous voyez, c'est pas évident de faire un changement majeur. C'est-à-dire que lorsque le testicule a été programmé, surtout si ça date de la vie intra-utérine, donc comme je vous disais, de l'empreinte épigénétique, parce que c'est ce qu'on appelle l'empreinte épigénétique pendant la grossesse, qui va aller marquer l'embryon et le fœtus. Si les gonades ont été programmées, donc les testicules, pour avoir peu de spermatozoïdes, ben, on a beau donner tous les compléments alimentaires qu'on veut, on va pas agir énormément, on peut agir un peu sur la qualité.
Donc c'est peu réversible en fait.
Il faut avoir des notes positives. Hein. Chez la femme, ça peut être un peu réversible. Chez l'homme, on peut améliorer la qualité. Déjà, la première chose à faire, c'est d'arrêter de fumer. On s'est aperçu que le tabac, donc quand on arrête de fumer, au bout de, je crois qu'il faut 3 ou 4 mois, on avait une nette amélioration. Donc déjà, nous, on a toute une série de conseils hygiéno-diététiques qu'on donne pour la fertilité en général et encore plus pour ceux qui sont exposés.
Vous voulez vous questionner aussi sur l'association dont vous êtes membre, Fertilion. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Notre association, donc on est trois principales gynéco, où on s'intéresse aux problèmes donc, du lien entre la fertilité et l'environnement depuis, je vous dis, on a commencé, je crois que le premier colloque, c'était en 2007. Et puis c'est quelque chose auquel on est très sensible. On fait tous les ans ici un colloque annuel qui a lieu là cette année le 11 avril sur la femme et l'environnement. La femme et sa santé reproductive par rapport à l'environnement. Là, voilà, le titre exact, c'est l'impact des perturbateurs endocriniens sur la fertilité de la femme et de l'enfant. Et donc, cette association, on essaye, ça c'est plus un site, on essaye de regrouper, on a mis en place ce QR code, on a mis en place ce questionnaire qui est quand même un des plus importants au niveau national, qui est utilisé dans pas mal de centres en France. Et puis, on organise ce colloque, ce congrès annuel à Lyon.
Et quel était l'objectif de cette association et qu'est-ce que vous essayez de connaître ?
L'objectif, c'est de sensibiliser déjà nos confrères, parce que les médecins, il n'y a pas eu un consensus immédiat, je dirais. Hein, il a fallu apporter des preuves, il y a eu beaucoup de publications un petit peu étrangères aussi. Donc nous, notre but, c'était de travailler, on a fait des études, on a même publié des choses sur l'exposition des couples infertiles aux perturbateurs endocriniens. C'est la publication qu'on a fait l'année dernière. Donc on essaye de avec les moyens qu'on a, hein, de sensibiliser le monde médical à ce problème-là. Bon, ça marche bien parce que notre colloque, il y a beaucoup de monde. Il y a des médecins qui viennent, des gynécos de plusieurs centres de toute la France. Hein. C'est un colloque national. Et puis, on essaye aussi, via les associations de patients, un petit peu à faire des exposés, à faire des articles, à faire des petites choses pour sensibiliser la population en général.
Et donc, parce que vous, je pense que vous êtes un peu renseigné sur le sujet, vous me parliez un petit peu des recherches internationales sur la question. Est-ce qu'il y a déjà des États qui ont réussi à faire déterminer ce lien au niveau individuel entre polluants et infertilité? Est-ce que ça a réussi à être prouvé?
Il y a une prise de conscience internationale sur ces questions-là. Il y a des pays plus sensibles que d'autres. Par exemple, il y a des consignes pour la femme enceinte. Au Danemark, on leur interdit de se faire des teintures dans les cheveux parce que c'est trop dangereux, c'est trop toxique, par exemple. Alors maintenant, le gros problème, je dirais, le gros problème, c'est l'industrie agroalimentaire. Hein. C'est s'attaquer, entre guillemets, à l'industrie agroalimentaire, c'est très compliqué.
Donc c'est compliqué, mais scientifiquement, médicalement, est-ce qu'on pourrait le prouver? Est-ce qu'on est en voie de le prouver? Puisque, en fait, il y a des études qui montrent le lien de causalité.
Il y a des études, il y a des articles qui, en particulier, j'en connais un dans le British Journal of Medicine, donc anglais, je suppose, qui montre que l'alimentation, la différence de concentration de produits chimiques dans les produits de l'industrie versus, je vais dire, de l'agriculture naturelle, et qu'il y avait une différence quand même significative en termes de concentration de polluants, même si on dit le bio, il n'est pas bio parce qu'il y a quand même des produits, ce qui est vrai, parce qu'il est contaminé par les champs d'à côté, etc. Ok, ça c'est vrai, mais ils en ont toujours quand même un peu moins, hein, c'est toujours ça. Donc ça joue quand même... Ça joue quand même. Oui, on arrive à prouver. Je pense que le lien, il est prouvé. Maintenant, les décisions, elles sont plus ou moins... Alors, on a interdit le bisphénol A, on l'a même interdit dans les boîtes de conserve. Maintenant, il s'attaque aux sphalates. En cosméto, il y a eu, comme je vous disais, le parabène. Alors, c'est vrai que si on disait aux gens, dans l'agroalimentaire, faut acheter que des produits frais, faire vous-même. Hein. L'industrie, elle... Et c'est une pression en France qui est énorme, énorme, énorme. Alors nous, forcément, on leur donne ces conseils. On donne ces conseils de manger des produits sains, de toute façon. D'éviter certains aliments, comme je vous disais, les fruits de mer, les poissons gras. Ils sont trop riches en métaux lourds. Pour les viandes, pareil, les viandes grasses, elles concentrent, comme la viande de porc, etc., elles concentrent dans le gras les polluants. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire peur aux gens non plus. C'est-à-dire, on est plus là pour dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Le but, ce n'est pas de faire peur, mais c'est de sensibiliser à faire attention à nos réflexes de vie. Et comme ce sont des femmes en âge de procréer, donc qui ont en général entre 25 et 40 ans, donc jeune, on a encore cette capacité de changer notre conditionnement, en fait.
Oui, et par exemple, je sais pas, mais des agriculteurs ou agricultrices qui travaillent au contact de pesticides, est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, ces profils avec
Bien sûr, on les voit. Alors, normalement, ils sont protégés. Ils doivent mettre, ils ont des combinaisons, des masques. Ils doivent bien se laver les mains, etc. S'ils font attention, ça va. On leur dit, nous, de bien respecter les règles de protection. Et regardez, en France, on avait interdit le Roundup, là. Et puis là, ils sont en train de le repermettre. C'est quoi la décision? C'est pas la santé. Ça, c'est un exemple compliqué. Alors qu'on sait très bien que le glyphosate, c'est pas très bon.
Santé publique liée à l'infertilité, VS les gros industriels mondiaux.
Voilà, c'est une balance. Et quand on voit certaines entreprises, c'est très très délicat. Alors il y en a qui vont vous dire que les preuves sont pas assez formelles. Alors est-ce qu'il faut attendre d'être vraiment complètement mal pour interdire? Je voudrais savoir ce qu'il, par contre, je voudrais savoir en Europe ce qu'il en est. J'avoue que ça, j'ai entendu ça récemment aux infos, donc c'est pour ça que, que j'en parle. Mais globalement, ce qu'il faut dire, maintenant, on ne peut pas nier le lien entre la fertilité et l'environnement, que les voies de contamination, elles sont multiples et variées, que c'est un cocktail chimique, c'est-à-dire que nous, dans notre corps, on concentre tout ça, ça se mélange, et ça va plutôt s'amplifier. C'est pour ça qu'on parle de cocktail avec un effet synergique. Donc ça veut dire que une crème pleine de parabènes, plus un produit, je dirais, une alimentation pas bonne, respirer un produit d'entretien, mettre des parfums d'intérieur, ça, il ne faut pas le faire. Les bougies d'intérieur synthétiques, là, il ne faut pas les utiliser, c'est toxique. Tout ça, il faut faire très attention. Donc tout ça, ça se mélange. Et donc nous, on prévient les gens que ça, pour la fertilité, ce n'est pas bon. Pour eux, ce n'est pas bon. Pour l'enfant à venir, on a mis en place un accompagnement pour ça, pour celles qui désirent. On fait une enquête et en fonction de leur quotidien, on rectifie certaines choses dans leur comportement. Donc, il y en a de partout. Donc, si on dit ça, on fait peur aux gens. Mais il y a des choses qu'on peut éviter. Et ce qu'il faut, c'est supprimer ce qu'on peut éviter. Alors, des fois, je dirais que le pas cher, il peut coûter cher à votre santé, quoi. Mmh.
Mais là aussi, où ça crée des inégalités.
Mais oui, mais c'est pour ça que c'est compliqué comme problème. C'est-à-dire que soit on voit le côté médical scientifique pur, mais on se confronte à l'industrie en face et les conditions, je dirais, économiques aussi et industrielles, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Mais nous, on n'a pas forcément un intérêt, mais ça va contre l'intérêt des... Mmh. Et moi, j'ai été hyper surprise qu'on retolère le désherbant au glyphosate.
Donc je ne sais pas si vous avez lu un petit peu le rapport du gouvernement là, qui est sorti sur l'infertilité, mais où donc il y a les causes de l'infertilité qui sont citées, hein, et une ligne sur les perturbateurs endocriniens, et après beaucoup sur les comportements individuels, hein, comme vous l'avez tué, le tabac, tout ça. Mais on parle très peu, enfin le rapport ne parle pas des différents perturbateurs endocriniens qui sont dans notre quotidien, en fait. Et qu'est-ce que ça vous évoque, vous qui travaillez sur ces problématiques? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut négliger?
Je sais pas. Non, on peut plus le négliger, parce que nous, maintenant, on sait. Je pense que les politiques, ils ont peut-être pas voulu en parler de façon très officielle pour pas apeurer, pour pas faire peur aux gens, puisqu'on est dans... de créer un stress. Le stress en lui-même, il est aussi pas bon pour la fertilité. Donc il y a pour l'instant, ils nous laissent ça à nous de faire ce devoir d'information. Comme on dit, nous en tant que médecins, on a ce devoir d'informer, d'expliquer, de donner les conditions de se rééduquer. Donc c'est ce qu'on fait. Mais quelque chose contre lequel on ne peut rien faire, la pollution de l'air extérieur, comme je vous ai dit, on ne va pas trop insister en disant qu'aux gens c'est très dangereux, parce qu'après, dès qu'il y aura un jour de pollution, ils vont avoir peur. Alors que c'est pas cette pollution-là la pire, parce que, comment dire, ce qui est vraiment, c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire l'air intérieur chez soi, on pense que c'est mieux d'aérer son appartement, même si c'est pollué dehors, parce que la pollution intérieure, elle est plus forte que la pollution extérieure. Donc tous les jours, aérer, par exemple.
Mais en tout cas, ne pas le dire pour ne pas apeurer, c'est aussi ne pas le reconnaître, ne pas prévenir.
Oui, mais ça, c'est pas nous, on le dit.
Non, mais bien sûr.
Voilà.
Mais est-ce que il serait pas, enfin, est-ce que vous personnellement, vous pensez qu'il serait pas nécessaire de faire des préventions aussi?
Mais je crois qu'au niveau du ministère de la Santé, ils ont mis en place un groupe de réflexion sur les perturbateurs endocriniens. Donc, ils sont en train de réfléchir sur ces questions, parce que ça touche la santé, la fertilité, mais pas que, hein. Ça donne des maladies neurologiques dégénératives, hein. Ça donne des cancers hormonodépendants. Donc, ils sont en train de se pencher sur la question.
On vient d'écouter une interview de Véronique Biette-Damon, gynécologue spécialiste des questions environnementales et de la reproduction, qui travaille dans un centre de PMA, procréation médicalement assistée à Lyon. Et c'est la fin de ce plat de résistance. Lundi prochain à 17h sur La Clé des Ondes, une rediffusion de l'émission Lilith, Martine et les autres, diffusée sur Radio Canut. Une émission sur le contrôle des corps et ce fameux réarmement démographique qui met vite de côté les restrictions d'accès à la PMA et les stérilisations forcées ou incitées des femmes racisées dans les départements et régions.